témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Excusez-moi, mon équipe et moi est mort de rire. Le thème est tellement bon que j'arrive pas à me sortir de la tête, puis ça me tape sur les nerfs un peu. Ma question pour vous dans cette deuxième heure, c'est comment avez-vous fait preuve de résilience dans votre famille depuis la pandémie? Vous voyez, c'est une grosse question. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de monde créatif, il y a beaucoup de monde qui ont besoin peut-être d'un peu d'écoute pour les aider. Alors tout ça s'enclenche comment? Alors, avez-vous fait preuve de résilience dans votre famille depuis la pandémie? Je veux juste spécifier résilience, c'est pas un mot qu'on utilise tout le temps, c'est un anglicisme en fait. En anglais, ça veut simplement dire, admettons, on se blesse avec un couteau, on saigne, la blessure va se refermer d'elle-même. Elle se soigne elle-même, puis à un moment donné, il n'y aura peut-être même pas une cicatrice. En français, c'est le psychiatre et ethnologue Boris Cyrulnik qui a sorti ça pour faire la même chose, mais pour les blessures du cœur, les blessures de l'âme, les blessures de l'émotion. Alors, la résilience, ben c'est ça, c'est être capable de prendre des choses difficiles puis d'en faire des belles affaires puis de fonctionner avec. Alors, c'est ça que je veux dire par résilience. Alors, pour en parler, on a premièrement Julie Dupage, qui est actrice, animatrice, blogueuse au julielapie.com et mère de deux adolescents. Je spécifie que le nom Julie Lapie, c'est aussi le nom de sa page Twitter. Salut Julie.
Salut Dan, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien.
Alors, dis-moi, Julie Lapie, pourquoi?
Julie Lapie, parce que, ben c'est ça, c'est le nom de mon blog, parce que quand j'étais petite, à l'école, j'étais super bavarde, puis tous les profs, tout le monde m'appelait Julie Lapie. Puis un jour, mon père m'a dit, écoute, parler, c'est bien, mais faut pas parler pour rien dire dans la vie. Et là, ça m'a piqué, puis ça m'a donné envie d'être d'autant plus curieuse pour justifier mes bavardages, puis avoir vraiment quelque chose à raconter. Alors, des années plus tard, quand j'ai voulu lancer ce blog, ces billets que j'écris pratiquement chaque semaine depuis plus de 5 ans, je me suis dit, tiens, c'est un bon titre, ça. Ça me rappelle non seulement des souvenirs, mais c'est complètement en adéquation avec ce que je suis encore.
Oui, puis il faut parler. Puis effectivement, il faut que ça fasse du sens, par exemple. Alors, spécialement oui. Quand on est dans un média public comme en ce moment, Julie, toi puis moi. Moi, mon père, je pense qu'il me disait la même chose que le tien, mais il n'y avait pas les mêmes. Mon père, il disait, quand t'as rien à dire, ferme ta gueule. Alors, mais ça revenait, ça revenait pas mal.
Ça revenait la même chose.
Oui, oui, puis je trouve que ça fait du sens. Je suis entièrement d'accord. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est que toi, ben, t'as deux ados. Mené ta famille en temps de confinement. T'as mis la main à la pâte, comme je te connais. Je te connais pas beaucoup, mais quand même suffisamment pour dire que je te trouve active, moi.
Oui, ben c'est ça. Deux ados, un qui a eu 13 en pandémie, puis l'autre qui va avoir 16 à la fin de l'été. Je te dirais que ça a été un peu des montagnes russes. Tu sais, quand ta recherchiste m'a posé la question comment ça s'est passé, je lui ai dit ça dépend des semaines. Au début, tu sais, on était tous un peu décontenancés par cette situation. Ça nous a pris de court. Tout s'est arrêté complètement anormal. Et anormalement, je veux dire, on s'est jamais retrouvé dans une telle situation. Donc, moi, j'ai eu comme besoin pour pallier à cette espèce de vide, j'ai eu besoin de tout réorganiser ma maison. Je l'écris d'ailleurs dans un de mes billets. J'étais comme une folle de tout réorganiser, de tout ranger, de tout. J'avais l'impression qu'il fallait que je trouve de l'ordre dans ce désordre. Où il y avait des gros points d'interrogation au bout, là, et encore maintenant, c'est pas encore tout à fait réglé. Fait que cette période, je l'ai trouvée très anxiogène. Je la trouve encore avec les cas qui remontent. Je la trouve quand même encore anxiogène, même si le beau temps, la chaleur de l'été fait qu'on devient un peu plus insouciant. Tu sais, je veux dire, c'est quand même plus agréable de se lever quand il fait beau, quand il fait chaud, puis quand on entend les oiseaux gazouiller. Mais il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de me dire, bon, regarde, tu peux rien faire, tu sais, there's so much you can do, comme on dit en anglais, tu sais. Fait que prends juste le meilleur de ce qui arrive et arrête de stresser, arrête d'angoisser, même si c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est tout un travail. Moi, je suis d'une nature quand même très inquiéteuse, ça se dit pas, mais je le dis quand même. Fait que, à un certain moment, je me suis dit, OK, on va juste essayer de prendre le meilleur, d'embrasser tout ça et de faire en sorte que les choses se passent bien. Puis c'est ce qui s'est passé, en fait.
Peux-tu me permettre une petite question personnelle qui est moitié sérieuse? Si tu dis, il fallait que je fasse de l'ordre, il fallait qu'il y ait de l'ordre, j'ai changé ma maison. tu m'as pas de l'air d'avoir de demander l'avis à qui que ce soit. Serais-tu un tout petit peu Germaine Cébord?
Ben, complètement.
Je te dis ça, mais c'est un équilibre, hein? C'est un équilibre. Oui, je suis d'accord. Il n'existe pas une Germaine sans son Gérard. J'ai rarement pris une décision. Alors, c'est un couple, ça va ensemble.
Je salue mon Gérard qui m'écoute.
OK, c'est très bien. Non, mais c'est parce qu'on s'entend que c'est certain que dans le mot résilience, il y a un peu prendre les choses en main. Donc, c'est pour te taquiner le terme Germaine, mais ça prend quelqu'un comme toi, main dans la famille, qui prend un peu la direction des opérations, on y va comme ça, puis qu'à un moment, qui crée mouvement dans sa famille, parce que ton humeur, à toi, elle déteint sur tes enfants, sur ton chum, sur tout le monde, puis si ton humeur est de tenter de, bon, on va essayer de réparer, je sais pas trop comment, on va faire du ménage, on va commencer par là, mais t'es déjà là-dedans, ben, le restant de ta famille va être un peu dans le même mood, alors que si t'étais écrasé sur un sofa, complètement défaite, ouais, peut-être que toute ta famille t'aurait suivi là-dedans aussi, ce qui arrive avec les leaders.
Ben, t'as vraiment raison. Puis pour revenir à ton mot Germaine, je pense qu'on est une bonne gamme de Québécoises à être des Germaines. Je pense que c'est très symptomatique de la femme québécoise. Puis je citais tout à l'heure mon père à propos de Julie Lapie, mais ma mère m'a souvent dit qu'elle sentait, elle, dans notre famille, qu'elle était le capitaine un peu de la famille.
Oui.
Et que son humeur teintait notre famille. Et moi, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, parce que moi, quand elle m'a dit ça, et quand je suis devenue maman aussi, je me suis dit, c'est vrai ce qu'elle disait. C'est vrai que maman est relativement toujours de bonne humeur, puis que les choses vont de façon assez positive avec elle. En tout cas, si ça va pas, on le sent pas tout le temps. Puis quand on était petite, on le sentait pas, ma sœur et moi, tu sais. Mmh. Et j'ai essayé de recréer ça aussi, particulièrement durant la pandémie, en disant, OK, let's go. Oui, j'ai des angoisses, oui, j'ai de l'anxiété. Puis c'est pas vrai qu'il faut tout cacher aux enfants, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en même temps, d'essayer de peut-être camoufler ça pour le bien commun de notre famille, tu vois.
Mmh. Et peut-être dire aux ados ce qu'ils ont besoin de savoir, parce qu'eux autres aussi traversent des crises. Là, ils n'ont pas leur gang et tout ça. Julie, je te garde avec nous. Même, je vais te garder toute l'émission. Tu vois, c'est quoi être un esclave de notre
vie? C'est bien correct.
Je te lâche pas. J'ai besoin de ton avis partout. On va prendre des appels. On va répondre ensemble. Ça va être le fun. Pour tout de suite, je voudrais aussi parler à Catherine Laurier, qui est professeure-chercheure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Mme Laurier.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, c'est intéressant parce que tout notre sujet ici est parti de votre début d'études. On comprend qu'il n'est pas fini.
Mm-hmm. On est toujours en recrutement présentement.
Oui, comment ça se passe?
Le recrutement, ça se passe bien. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, hein, qui veulent participer à notre étude, qui se porte justement sur la résilience des familles, puis l'adaptation des familles là, dans cette crise de la COVID. En fait, on recrute des parents d'enfants âgés entre 6 et 17 ans, puis des adolescents aussi âgés de 14 ans et plus qui peuvent remplir nos questionnaires. Vous allez les retrouver sur Facebook, là, à notre page Facebook Recherche sur l'adaptation des familles COVID-19, là, il y a tous les liens. Donc là, ça se passe bien, notre recrutement. Notre étude est lancée depuis le mois de juin. Les parents y répondaient au questionnaire. Les adolescents, ben, c'est un petit peu plus difficile. Il faut quand même prendre 40 minutes pour répondre à nos questionnaires, mais c'est extrêmement important pour avoir des données, justement, là-dessus. Je vous entendais discuter avec Julie tantôt. Puis, ben, il faut savoir réellement comment ça se passe, comment les gens s'adaptent à cette épreuve-là, là, qu'on a tous subie, là.
D'après moi, ça affecte beaucoup les jeunes aussi. On sait, je vais le répéter encore quand même pour être certain, mais le premier univers, la première société de nos enfants quand ils sont bébés, c'est juste nous, c'est les parents. Après ça, leur société, c'est l'école. Et les amis deviennent très, très, très importants parce qu'ils forment leur personnalité. Fait que quand ils disent « je vais aller voir mes amis », c'est pas un petit jeu, là. C'est sérieux, sans ça, ils se construisent pas. Je peux vous dire même que quand on voit, par exemple, dans une école, on essaie de repérer les enfants ou les ados qui sont toujours tout seuls, parce qu'on repère qu'il y a potentiellement un danger, que ça se passe mal pour ce jeune-là. Mais savez-vous qu'on n'est pas les seuls, c'est une méthode éprouvée, même les gangs de rue font ça. Les gangs de rue font le tour des écoles, ils regardent les enfants qui sont seuls, puis ils spotent.
Mm-hmm.
Alors,
oui,
c'est une fin. Donc, la solitude pour nos jeunes, est-ce que ça a l'air à cogner fort?
Mais c'est sûr que peut trouver que c'est inquiétant présentement. Justement, l'école n'était plus là. On leur a imposé des restrictions. Ils n'avaient pas le droit de voir leurs amis, leurs amoureux. Nous, il y a des adolescents qui nous ont
dit... C'est vrai. L'amour à cet âge-là, c'est toute la découverte. Et c'est notre premier amour quand ça casse, tu veux te tuer. Tu sais, c'est t'apprends. Et c'est de première importance. Puis là, à cause de la COVID, on ne peut pas voir notre amoureux ou notre amoureuse.
Ouais, c'est très difficile, c'est très important pour un adolescent les premières amours justement. Puis les parents ils ont dû mettre des restrictions à tout ça là pendant le confinement. Ça a été très difficile pour les adolescents. Nous, on n'a pas encore de résultats de notre recherche, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'est-ce que dans la cellule familiale et c'est quoi les ingrédients qui font que les jeunes ils s'adaptent. Est-ce que par exemple c'est ce qui était en place avant la pandémie, par exemple, la communication dans la famille, le fait aussi que les rôles familiaux soient bien définis. Je vous écoutais aussi avec Julie, la
gestion. Ça a l'air assez défini chez Julie, je trouve.
Oui, ben chez nous aussi, là, je peux vous dire. mais donc, est-ce que ça, par exemple, c'est un facteur de protection, hein, que justement les gens ils savent sur qui se reposer dans la famille? Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut évaluer aussi.
Parce que s'ils n'ont pas ça, ils sont complètement perdus, là. Julie, dans sa famille, c'est parce que, je veux dire, ses enfants, ça cote sur elle. Ils ont besoin de ça. Si elle apprend pas le lit, il va arriver des malheurs. Là.
Mm-hmm. Ils ont quand même un père, là, Dan, nous aussi.
Oui, je veux dire,
maison,
oui.
Mais quand même, c'est ce qui est épuisant aussi, c'est que tu sais que tu es le support tellement moral de tes enfants puis que tu n'as jamais de break en temps de pandémie. Tu sais, on est tout le temps ensemble.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est épuisant aussi mentalement à un certain moment. Tu sais, faut se préserver nous aussi. Et moi, l'écriture, c'est ce qui me sauvait parce que j'allais m'enfermer dans mon bureau. Puis là, je disais, OK, là, laissez maman tranquille un peu, là, puis je m'évadais avec mes mots, avec mes idées, avec mes réflexions.
On connaît même l'expression québécoise « aller se reposer à shop ».
Oui, ben c'est ça, exactement.
Ah oui. Mais tu sais, quand c'est important, quand mais même pour tes enfants, Julie.
Oui, mais tout à fait, parce que c'est ça, je me disais « my God, ils doivent être tellement tannés d'être avec papa et maman, tu sais ». Sincèrement, je me posais la question, puis je me disais aussi, les pauvres, quand vous parliez des amis, des amoureux, ça, je dis « les pauvres ». C'est ce qui me faisait presque le plus de peine, de voir qu'ils étaient si seuls, tu sais. Mm-hmm. Alors, heureusement, il y avait il y a les FaceTime de ce monde, puis les house parties, c'est où ils pouvaient connecter virtuellement. Fait que ça me faisait du bien. Même des fois, je poussais mon fils. J'ai dit, as-tu appelé tes amis aujourd'hui en FaceTime? Vas-y, là. Mm-hmm. Parce que j'avais peur qu'ils se morfondent. Ouais,
mais le contact humain nous manque. Nous autres, ici, par exemple, à radio, l'année passée, on se donnait des becs quand on se retrouvait. On était contents. Là, évidemment, il n'y en est pas question, mais même Jean-Luc Mongrain puis moi, la première fois qu'on s'est retrouvés, on s'est pogné un swing, s'envoyer une maudite poignée de main, puis on s'est retenu à la dernière seconde. Alors, c'est quelque chose qui manque. Ça manque à tout le monde. Et je trouve que ça atteint l'humeur de tout le monde. Je vais vous remercier tous les deux. Ça ne veut pas dire que je vous libère, ça. Je vous garde avec moi. On va essayer de faire le prochain bloc. Puis je vais prendre des appels aussi. J'aime ça. Quand tout le monde discute ensemble, on avance beaucoup plus vite. On est avec Julie Dupage, qui est actrice, animatrice et blogueuse au julielapi.com. Allez voir ça. Et mère de deux adolescents. Et Catherine Laurier, qui est professeure-chercheure à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et c'est elle qui est à l'origine de cette étude-là. Alors, si vous voulez m'en parler, vous pouvez me rejoindre au 514-790-9850 et en dehors de la ville de Montréal, faites juste rajouter 1-866. Comme ça sera sans frais. 790-9850. On vous revient après la pause.